Cette année aura lieu un grand événement qui touche la famille de Charles de Foucault. C'est la canonisation de Charles de Foucault. Et je suis aujourd'hui avec l'abbé François Biespéré. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Joseph Lopez. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler de ces fraternités donc, qui existent depuis longtemps autour de la figure de Charles de Foucault. Alors, abbé François Biespéré, est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots cette figure de Charles de Foucault qu'on connaît bien quand même, mais comment il peut nous inspirer aujourd'hui et puis comment cette année de canonisation peut nous faire avancer dans notre foi en suivant ce modèle de Charles de Foucault?
Alors Charles de Foucault m'apparaît assez moderne par plusieurs aspects. D'une part, il a vécu plusieurs vies. Il a été militaire, il a été moine, il a été ermite. Il a vécu les 15 dernières années de sa vie comme prêtre en milieu des Touaregs au Sahara. Je pense que ça rejoint un peu la mobilité des personnes d'aujourd'hui, la recherche. Et puis, il vient du monde, il a traversé des années d'incroyance, comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'interrogent aussi sur la foi. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Charles de Foucault, c'est qu'à travers tous ces changements, il a toujours rêvé en quelque sorte d'infini, de quelque chose qui le comblerait. Et il a trouvé cela finalement dans sa rencontre avec le Christ ressuscité, qu'il a cherché dans la prière, qu'il a cherché dans le service des autres. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que lui qui a eu beaucoup d'intérêt pour l'Eucharistie, il a commencé par découvrir l'Eucharistie comme un mystère à adorer, puis comme un mystère à célébrer, et puis finalement il a passé plusieurs mois sans pouvoir célébrer l'Eucharistie à une époque où on ne pouvait pas célébrer la messe sans enfant de cœur, et il est resté plusieurs mois parce que pour lui l'Eucharistie à ce moment-là c'était vivre avec les Touaregs, c'était partager leur vie, c'était rassembler les éléments de leur culture pour pouvoir la faire connaître aux autres.
Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à vivre au milieu des Touaregs? Au départ, il était donc d'un milieu aisé en France. Il a vécu une sorte de conversion assez fulgurante.
Alors, il a été d'abord militaire, et puis ensuite, il a démissionné de l'armée pour explorer le Maroc. Et au cours de ce pèlerinage au Maroc, donc dans les années 1883-1884, il a d'abord été séduit par l'islam. Il était déguisé en juif, et il a perçu combien les juifs avaient peu d'importance dans la culture marocaine de l'époque, et il a tout en même temps sa vie à des musulmans qui l'ont protégé, qui ont découvert qu'il était un Français, que c'était un Français, mais qui l'ont protégé au nom de leur religion musulmane. Mmh. Et il a été attiré par l'islam, et quand il est rentré, quand il a publié son exploration au Maroc, il est rentré en même temps en contact avec le père Uvelin, qui était prêtre à Saint-Eustache à Paris, qu'il a rencontré par l'intermédiaire de sa cousine Marie de Boissier, et le père Uvelin l'a amené à la conversion, à la rencontre avec le Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que fin octobre 86, donc Charles de Foucault a demandé un entretien avec Henri Uvelin pour un entretien intellectuel, et le père Uvelin lui a dit: ça suffit, confessez-vous. Et ça a été l'éblouissement, il a compris que Dieu l'aimait, qu'à partir de là il pouvait vivre que pour lui.
Mmh. Joseph Lopez, vous avez vous-même vécu au Maroc, donc ça vous parle que Charles de Foucault ait eu cette expérience au Maroc. C'est pour ça que vous vous êtes engagé dans les fraternités?
Pas tellement, un petit peu aussi, mais J'ai connu Charles de Foucault depuis mon enfance, parce qu'on nous parlait tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit dans les paroisses.
C'est une figure très présente là-bas.
Très présente, oui. Ouais. Même il y a eu une exposition itinéraire, je parle de 1954-55, où celui qui faisait l'exposition a apporté des éléments de sa vie. Alors on voit une petite savonnette, enfin ce que je me souviens quand j'étais plus petit, et puis des affaires très simples qu'il avait avec lui. Enfin, mmh. On a rapporté.
Parce qu'il il vivait dans la pauvreté.
Dignement.
Abbé Biespéré, par rapport au dialogue interreligieux aussi, il a quelque chose à nous dire. Comment il faisait lui pour dialoguer avec les musulmans?
Alors, ils partageaient au maximum leur vie, sa maison était ouverte à tous, toute personne qui arrivait chez lui était accueillie, était considérée comme un frère, et ça c'est quelque chose d'important parce qu'il n'a jamais fait d'exclusion envers personne, et on se souvient donc, ayant accueilli des protestants, des musulmans, il disait finalement que vous qui êtes protestants, vous qui êtes musulmans, nous nous retrouverons tous auprès de Dieu pour l'éternité. Donc il a établi ce dialogue avec les musulmans et moi je reste très ému de vous raconter ce que disait l'un de ses amis musulmans. Pour les obsèques de sa tante, il disait « Le marabout est venu avec nous, il est resté avec nous, il n'a pas prié avec nous ». Mais il priait de son côté et quand il a eu fini, il nous a dit que Dieu augmente votre consolation. Ce dialogue de la vie, de la prière, c'est quelque chose d'important.
Et donc il est resté dans le respect des autres, de l'autre religion.
Il aurait voulu leur conversion, mais en même temps il respectait profondément ce qu'ils étaient. Et il a recueilli tous les proverbes, tous les poèmes de langue touareg pour... parce qu'il est considéré comme un trésor culturel. Donc
Il y a eu un enrichissement des deux côés.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Joseph Lopez, vous faites donc partie de ces fraternités Charles de Foucault. En quoi ça consiste? Ce sont des laïcs qui se retrouvent...
C'est des laïcs qui se retrouvent...
Autour de cette figure, alors.
Exactement. Et nous avons un prêtre accompagnateur avec nous, dont, pour ne pas le nommer, c'est...
L'abbé Biespéré.
L'abbé Biespéré, qui est avec notre église. Nous sommes une équipe d'une douzaine de personnes sur Pau, Oloron et Arbus, à côté de Mourinx. Et nous nous voyons à peu près tous les mois et demi, en fonction. Et on essaye de prier, puis de partager notre vie, ce qu'on vit.
Donc ça se déroule toujours de la même manière, vos rencontres?
Oui, oui.
Lecture de la parole, échange.
Oui, oui, échange de notre vie, de ce qu'on fait, de réalisation, des yeux ouverts que nous avons vis-à-vis des pauvres, de ceux qui sont démunis, etc. On a toujours un regard porté sur l'autre.
Donc à l'image de Charles de Foucault, c'est vraiment en s'inspirant de sa vie que vous aidez les uns les autres aussi.
Oui.
Alors pour cette année, c'est quand même une grande année pour vous, la canonisation, donc au mois de mai, je crois.
Oui,
le 15 mai, à Rome. Alors je crois que vous allez y aller vous-même.
Oui, la chance et puis la possibilité d'y aller, de participer avec un groupe, quelques-uns de Bayonne et de la Côte Basque, et de Pau et de Lourdes. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui vont venir. Et on va tous se retrouver
donc en pèlerinage à Rome pour cette canonisation. Comment vous préparez ce pèlerinage? Est-ce que, enfin, c'est encore peut-être un petit peu tôt, mais vous allez essayer de le préparer pour que ce soit justement un vrai pèlerinage?
D'abord, par la prière. Nous prions beaucoup et nous avons les yeux ouverts, comme on dit, ouverts pour voir un peu comment ça se passe. Et nous portons avec nous toutes les intentions que les gens, des personnes qui ne pourront pas venir.
Qui vont vous les confier.
On les confie. Et j'ai la chance d'être très heureux d'y aller, bien que je vous ai déjà la béatification en 2005.
Déjà, ah oui.
Et puis maintenant, cette année, j'ai la chance.
C'est vrai que ça marque d'aller à une canonisation.
Ah oui, c'est vrai. Déjà en 2005, c'était important. Nous étions la foule... sur la place Saint-Pierre, et puis c'était, il n'y a pas de mots pour le dire, la joie que nous avions d'être là et de participer.
C'est vrai que c'est magnifique, une canonisation. Hein. Ouais.
Et puis se sentir de tous les coins de France et du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient allés d'ailleurs, et on avait les yeux qui brillaient, quoi.
Ouais.
C'était une joie intérieure qui me passe... qui ne peut pas s'exprimer autrement que par le regard.
Et puis vous êtes tous d'une même famille à vous retrouver. Abbé Biespéré, à l'occasion de cette canonisation, comment est-ce qu'on peut prier Charles de Foucault? Qu'est-ce qu'on peut lui demander?
Je crois qu'il faut surtout le remercier pour le message qu'il nous a laissé. À sa manière, il a été un peu précurseur de Vatican II. Il a participé à la naissance de ce courant d'une église très proche des gens, vivant beaucoup au milieu des gens. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut garder, un peu comme un trésor. Et puis, cette année, sur Pau, la paroisse Saint-Martin vit une année foucauldienne. Donc c'est aussi l'occasion d'écouter des conférences, de rencontrer des personnes. Donc c'est aussi un travail qui se fait un peu sur la paroisse, une conscientisation. Et je pense que le message de Charles de Foucault prendra une importance plus grande sans doute dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup à tous les deux. Et puis donc rendez-vous à Rome, soit en réel, soit à distance, pour cette canonisation de Charles de Foucault.